Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1961, peu avant la mort de Maurice Merleau-Ponty, El œil et l'esprit est un bref essai de philosophie de la peinture et de la perception. Le texte prend la pratique du peintre, avec une attention majeure à Cézanne et des références à Klee, Matisse ou encore Descartes, pour interroger ce que signifie voir. Son enjeu dépasse donc largement le commentaire esthétique. Merleau-Ponty conteste une conception qui ferait de la vision une opération intellectuelle détachée du corps ou une simple réception de données objectives. Voir engage un corps mobile, situé et déjà pris dans le monde visible. La peinture importe parce qu'elle rend sensible cette appartenance réciproque du voyant et du visible. Elle ne copie pas un monde constitué de choses stables, elle fait paraître la profondeur, le mouvement, la couleur et la présence des choses telles qu'ils se donnent dans l'expérience. Dense, souvent poétique et exigeant, cet essai condense les orientations tardives de la phénoménologie de Merleau-Ponty autour de la chair, du visible et de l'invisible. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la vision comme engagement corporel dans le monde, le point de départ de l'essai est le refus de séparer radicalement un sujet qui verrait et un objet qui serait vu. Pour Merleau-Ponty, le regard n'est pas une inspection menée depuis une position extérieure au monde. Le corps du voyant appartient au même champ visible que les choses vers lesquelles il se tourne. Il peut atteindre un objet parce qu'il est mobile, orientable et déjà engagé dans un espace commun avec lui. Cette idée déplace la compréhension ordinaire de la perception. La vision ne se réduit ni à une image produite dans l'esprit, ni à une somme de mécanismes physiologiques décrits par la science. Elle est une manière pratique et sensible d'habiter un milieu. Le mouvement des yeux, de la tête et du corps ne vient pas après la perception, il en est une condition interne. Le peintre permet de rendre ce fait plus manifeste, car son geste se forme dans un dialogue continu entre le corps, la toile et ce qui apparaît. En peignant, il ne traduit pas après coup une représentation mentale achevée. Il laisse son regard et sa main répondre à la sollicitation du visible. La réflexion esthétique devient ainsi une enquête ontologique. Comprendre la peinture aide à comprendre comment une conscience incarnée peut être ouverte au monde sans le dominer de loin. Deuxièmement, le peintre révèle un visible qui ne se laisse pas réduire à un objet. Merleau-Ponty accorde au peintre une position singulière. Non parce qu'il détiendrait une vérité supérieure par simple inspiration, mais parce que son travail suspend les usages habituels du regard. Dans la vie courante, nous regardons surtout pour identifier, utiliser, mesurer ou juger. La peinture peut interrompre cette réduction fonctionnelle et rendre à l'apparition son épaisseur. Le peintre ne cherche pas seulement à reconnaître un arbre. Un visage ou une table, il tente de faire paraître la manière dont ces choses prennent présence par la lumière, les couleurs, les écarts, les lignes et la profondeur. Le tableau ne vaut donc pas principalement comme reproduction fidèle d'une modèle extérieure. Il institue un visible propre, où le spectateur retrouve une expérience du monde qui excède les classifications ordinaires. Cette thèse explique l'importance de Cézanne dans l'essai. Sa peinture sert à penser une vision attentive à la naissance des formes, plutôt qu'à des contours déjà fixés par des conventions. Elle montre que les choses ne sont pas données comme des objets entièrement déterminés devant un observateur souverain. Elles émergent dans une relation perceptive mouvante. La peinture offre ainsi un accès privilégié à ce que Merleau-Ponty cherche à nommer un monde sensible qui nous précède, nous enveloppe et se manifeste sans devenir entièrement possédable par la pensée. Troisièmement, la critique de Descartes et du modèle géométrique de l'espace, une partie essentielle de l'essai, se construit contre la tradition cartésienne de la vision. Merleau-Ponty ne nie pas la valeur des sciences ni la nécessité de comprendre les mécanismes optiques. Il critique plutôt la prétention d'une pensée qui traiterait l'espace vécu comme un simple ensemble de positions calculables et la vision comme une connaissance analogue au toucher. Dans ce modèle, les objets sont conçus comme pleinement déterminés, placés dans un espace homogène, tandis que le sujet reconstruit mentalement leur ordre à partir de signes. Or, l'expérience perceptive ne se présente pas de cette manière. La profondeur, par exemple, n'est pas une troisième dimension ajoutée à une surface plane au moyen d'une déduction. Elle exprime une relation de proximité, d'éloignement, de recouvrement et de coexistence qui varie avec le point de vue et le mouvement du corps. La peinture met cette complexité en évidence car elle fait surgir la profondeur sur une surface sans la ramener à une illusion techniquement mesurable. La perspective de la Renaissance constitue pour Merleau-Ponty une invention historique importante, mais non la formule définitive de tout regard juste. Les transformations de la peinture moderne montrent que plusieurs organisations de l'espace sont possibles. Cette critique vise finalement une leçon philosophique, la vérité du sensible ne se laisse pas épuiser par un schéma abstrait, même lorsqu'il est scientifiquement efficace. Quatrièmement, profondeur, mouvement et couleur comme dimensions vécues, l'œil et l'esprit analysent les dimensions picturales non comme de simples procédés de composition. mais comme des manifestations de notre rapport incarné au réel. La profondeur est centrale, car elle contredit l'idée que voir consiste à recevoir une surface ordonnée devant soi. Elle indique que les choses se dérobent et se montrent en même temps, qu'elles ont des faces absentes, qu'elles se situent les unes par rapport aux autres et qu'elles appellent le déplacement du regard. Le mouvement relève de la même logique. Il ne se réduit pas à la trajectoire objectivable d'un corps dans l'espace, il est perceptible dans la tension d'une posture, dans l'orientation d'une geste ou dans la vibration d'une forme peinte. La couleur, elle aussi, ne fonctionne pas comme une étiquette appliquée à un objet déjà constitué. Elle participe à la manière dont une chose rayonne, se distingue et entre en relation avec son environnement. Ces analyses permettent de comprendre pourquoi le tableau peut paraître vivant malgré l'immobilité de sa surface. Il ne simule pas mécaniquement un espace tridimensionnel ou un événement en cours. Il organise des rapports sensibles qui réveillent chez le spectateur sa propre puissance de voir. Merleau-Ponty défend ainsi une approche où les moyens picturaux ne sont pas secondaires par rapport à un contenu, ils sont la pensée même de la peinture. Pensée qui se déploie dans le visible plutôt que dans un discours conceptuel. En dernier lieu, du voyant au visible, la réversibilité et la dimension invisible. La méditation sur la peinture conduit Merleau-Ponty vers une idée majeure de sa pensée tardive, celui qui voit est également visible. Mon corps peut regarder les choses, mais il est aussi exposé à la lumière, à la présence des autres et à son propre reflet. Cette réversibilité empêche de concevoir le sujet comme une conscience pure qui disposerait du monde devant elle. Le voyant et le visible appartiennent à une même trame, sans pour autant se confondre. La vision comporte donc une part de retrait, ce que je vois ne devient jamais entièrement présent ni entièrement transparent à mon regard. Chaque apparition renvoie à un horizon de face non vue, de profondeur et de sens latent. C'est dans ce contexte que la peinture possède une portée philosophique. Elle ne cherche pas à supprimer l'invisible en produisant une image exhaustive. Elle donne forme à ce qui ne peut être directement isolé comme objet le passage entre les choses. La densité de l'espace, l'émergence d'une figure, le fait même que le monde nous regarde en quelque manière. Les références de Merleau-Ponty à Klee et à d'autres peintres modernes servent cette conception d'une création qui ne ferme pas le visible sur une signification unique. Le tableau reste ouvert, parce que le monde sensible lui-même demeure inachevé dans toute perception. Cette ouverture distingue une phénoménologie de l'apparition d'une théorie de la représentation fondée sur la copie. En conclusion, l'œil et l'esprit s'adressent en priorité aux lecteurs de philosophie intéressés par la phénoménologie, l'esthétique et les rapports entre corps et perception. Il sera également précieux aux artistes étudiants en art visuel, historiens de l'art et amateurs de peinture qui cherchent autre chose qu'une analyse stylistique ou historique des œuvres. Le bénéfice principal de sa lecture est d'apprendre à déplacer des évidences voire nest plus seulement recevoir une image, l'espace nest plus un décor neutre, et le tableau nest plus une imitation plus ou moins réussie du réel. Merleau-Ponty offre des instruments intellectuels pour décrire avec davantage de précision l'expérience du regard, du geste et de la présence sensible. La brièveté de l'essai ne signifie pas simplicité, sa prose très condensée demande une lecture lente, particulièrement lorsque la critique du cartésianisme se joint aux formulations plus ontologiques. Cette difficulté est toutefois inséparable de son originalité. Contrairement à de nombreux essais d'esthétique qui évaluent les œuvres selon des règles de beauté, des écoles ou des techniques, ce livre fait de la peinture une voie de connaissance du rapport humain au monde. Il se distingue aussi des théories qui réduisent l'art à un message ou à une représentation. La peinture y apparaît comme une pratique capable de faire voir la genèse du visible en mobilisant le corps entier du peintre et l'attention active du spectateur. C'est cette alliance rare entre rigueur philosophique, sensibilité aux œuvres et écriture inventive qui explique sa place durable dans la philosophie de l'art. Si vous souhaitez soutenir Maurice Merleau-Ponty, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.